Info. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir. Selon l'agence France-Presse, la Côte d'Ivoire va se doter d'une loi antiterroriste. Ce projet vise principalement à prémunir le pays contre la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région, tels qu'Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou encore Boko Haram, a expliqué le gouvernement ivoirien. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres sera prochainement voté par l'Assemblée nationale. Au Niger, au moins 20 personnes sont mortes mardi après-midi, signale l'agence France-Presse. Elles ont été foudroyées par une bombe larguée par un avion non identifié. La bombe est tombée sur une cérémonie funéraire dans un village du sud-est du Niger, frontalier avec le Nigeria, selon des sources locales et humanitaires. Deux élus locaux joints par l'AFP ont fait état de 31 ou 32 morts et 20 blessés. Cette frontière est le lieu de tensions en raison d'attaques régulières des islamistes du groupe armé nigérian Boko Haram contre les positions des armées nigériennes et tchadiennes. Et par ailleurs, Boko Haram a promis d'empêcher la tenue des prochaines élections au Nigeria et il multiplie les attaques meurtrières dans le nord-est du pays, signale l'agence France-Presse. Le point avec Idriss Fall.
Aboubakar Sekou, chef du groupe islamiste, dans une nouvelle vidéo, a juré de faire échouer les élections du 28 mars. Il a également revendiqué l'attaque de Gombe le 14 février où ses combattants avaient envahi la ville pour distribuer des tracts mettant en garde contre toute participation aux élections. Malgré tout, Attahiru Jega, chef de la commission électorale nigériane, a assuré devant le Parlement qu'un nouveau report des élections serait inconstitutionnel. Sur le terrain, l'armée nigériane dit avoir tué plus de 300 djihadistes et repris la ville de Mangouno, mais ces affirmations ne sont pas confirmées par une source indépendante. Boko Haram s'était emparé le 25 janvier de cette ville dans l'état de Borno. Dans l'extrême nord du Cameroun, 8 civils ont été tués hier à Gaboua lors d'une attaque de djihadistes qui voulaient voler du bétail. Et au Niger, 2 élus locaux ont fait état d'au moins 30 morts lors du largage d'une bombe par un avion non identifié près de la mosquée d'Abadam. Ce village est divisé par un cours d'eau dont une partie se trouve au Niger et l'autre au Nigeria.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a procédé à des changements à la tête des services de renseignement. Timothée Donangmaï a recueilli les précisions de notre consoeur Karine Siroko de la Radio publique africaine.
L'administrateur général du service des renseignements, c'était le général Godefroy Niyombare. Il n'est pas encore été remplacé parce que le nom de son remplaçant doit être approuvé par le Sénat. Le chef de cabinet du service des renseignements, lui, par contre, a déjà été remplacé. C'est Maurice Mbonima, qui est aussi un haut gradé de la police, qui remplace Léonard Ngendakoumana. L'autre personne qui est remplacée, c'est le chef du renseignement intérieur, Sylvestre Ndaïzeye, qui était à ce poste. Il est remplacé par Bertin Garungu, qui était commissaire de la police de la région Ouest.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces changements interviennent maintenant?
On n'en sait pas beaucoup. Il y a beaucoup de théories qui s'échafaudent ici et là, mais on en saura peut-être également un peu plus demain. Tout ce qu'on sait, c'est que Godefroy Niyombare venait de passer là 3 mois au maximum. Donc ça surprend beaucoup de monde du fait que le président de la République le change aussi rapidement. On en saura peut-être beaucoup plus demain sur les motifs réels de ce changement aussi brusque.
Karine Siroko de la Radio publique africaine à Bujumbura. En Tunisie, une vingtaine de personnes accusées d'avoir participé à l'attaque de l'ambassade des États-Unis en septembre 2012 ont été condamnées à des peines allant de 2 à 4 ans de réclusion. Claire Morin-Chibourg.
Le verdict de la Cour d'appel de Tunis est bien plus lourd que celui prononcé en mai 2013 en première instance où les accusés avaient été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Selon le porte-parole de la Cour, Karim Chebi, les 20 prévenus ont cette fois été condamnés à des peines de prison ferme pour leur participation au saccage de l'ambassade et de l'école américaine en réaction à un film islamophobe diffusé sur Internet. À l'audience de mardi, seuls 6 des accusés étaient présents et tous ont nié avoir participé à la manifestation et aux heurts qui s'en étaient suivis avec la police et qui s'étaient soldés par la mort de 4 manifestants. Les autorités tunisiennes et les États-Unis avaient vivement critiqué les condamnations avec sursis des 20 accusés en première instance, si bien que le parquet avait fait appel. Il aura finalement fallu près de 2 ans pour que l'audience ait lieu mardi après de multiples reports.
La MONUSCO a pris acte mercredi à Kinshasa de la décision du président Joseph Kabila de se passer de son appui militaire dans les opérations de désarmement des FDLR. Mais selon Charles Bambara, le porte-parole de la MONUSCO, les discussions actuelles entre le gouvernement congolais et la hiérarchie de la mission onusienne en République démocratique du Congo permettront de faire évoluer positivement la situation.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au micro, Camille Grosdidier, un sommet se tient depuis hier ici à Washington, la capitale américaine. Il porte sur la lutte contre l'extrémisme violent et la prévention de cet extrémisme. D'autres précisions avec Bagasikoura.
C'est le vice-président Joe Biden qui a ouvert ce sommet de la Maison-Blanche. Il a vanté le succès des programmes de sensibilisation des jeunes à Boston, Los Angeles et Minneapolis, chacune ayant une large population d'immigrants. Les sociétés doivent fournir une alternative positive pour les communautés d'immigrants. L'opportunité, un sens d'appartenance, et cela discrédite l'appel des terroristes à la peur, l'isolement, la haine, le ressentiment. La police doit établir des partenariats au sein des communautés religieuses, économiques et civiques. Mais nous avons aussi invité tous ces gens ici. Nous avons des chefs religieux ici. Nous avons la communauté des affaires, les dirigeants de la société civile. Le tout avec un but à l'esprit. Comment contrer l'appel à la radicalisation? Le sommet intervient alors que les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à la montée rapide et sanglante du groupe extrémiste État islamique en Irak et en Syrie et les récents attentats terroristes en Australie, au Canada, en France et au Danemark. Des officiels de 60 pays ainsi que des chefs spirituels et des autorités policières américaines participent à ce sommet.
Le meurtre de 3 jeunes d'origine palestinienne la semaine dernière aux États-Unis continue de susciter des réactions de colère dans le monde islamique. Ce mercredi, des centaines d'étudiants islamistes ont manifesté à Téhéran, en Iran, pour condamner ce que les autorités iraniennes qualifient d'actes anti-musulmans. Les 3 ont été tués en Caroline du Nord par un homme opposé à toute religion. La police n'a toujours pas déterminé si les victimes ont été tuées à cause de leur religion. L'enquête est en cours et se poursuit. L'armée ukrainienne a abandonné ce mercredi la ville de Debaltseve après une puissante offensive des rebelles pro-russes sur cette ville stratégique pour le contrôle de l'est de l'Ukraine. L'annonce est venue du président ukrainien Petro Poroshenko. Jacques Aristide.
L'Union européenne a immédiatement condamné une claire violation du cessez-le-feu et dit se tenir prête à prendre toute action appropriée en cas de poursuite des combats en violation des accords de Minsk. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN a sommé la Russie de retirer toutes ses troupes de l'Est de l'Ukraine et d'arrêter son soutien aux séparatistes. Un entretien téléphonique était prévu ce mercredi soir entre le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'État français François Hollande. Ce mercredi encore, l'AFP rapporte que les corps de 13 soldats ukrainiens ont été acheminés dans une morgue près de Debaltseve. Mardi, le vice-président américain Joe Biden avait fermement condamné la violation du cessez-le-feu.
Et la situation reste incertaine entre le nouveau gouvernement grec et ses créanciers européens. Athènes souhaite l'extension de l'accord de sauvetage sans les mesures d'austérité requises.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Dans le dialogue des religions, au micro Idrissa Seludia, bonsoir. Des parents californiens arguant de leurs droits constitutionnels refusent de faire vacciner leurs enfants pour des raisons religieuses. Et un pasteur du Kentucky qui manipulait des serpents dangereux pendant ses services religieux meurt après avoir été mordu. Il avait refusé de se faire traiter. La religion prescrit-elle le refus ou rejet de la médecine moderne? Nos invités aujourd'hui, le docteur Daniel Capepula du Christian Victory Center ici aux États-Unis et le père Gerald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul à New York. Tout à l'heure, vos questions à nos invités ainsi que vos commentaires sur Facebook. Mais tout d'abord, pour camper le sujet, une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur en Californie exige des parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants de rencontrer au moins les spécialistes de la santé pour discuter des bienfaits et risques de la vaccination avant de les inscrire à l'école ou à la crèche. Bien que les écoles exigent un ensemble complet de vaccinations, 48 États de l'Union acceptent l'exception religieuse qu'exploitent aussi bien des parents pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Refus des vaccinations, mais également de tout soin médical, est-ce qu'un parent a le droit de prendre ce genre de décision vitale pour son enfant? Ce sera une des questions que nous poserons tout à l'heure. En tout cas, le pasteur Jamie Coates a refusé de se faire soigner après avoir été mordu. Il est rentré chez lui et quand plus tard une ambulance est allée là-bas, sa femme a signé une décharge pour certifier qu'il n'avait pas besoin de soins. Une heure après, quand les secouristes sont retournés sur place, il était mort. Son fils Cody n'a aucun regret. Quand c'est ton heure, a-t-il dit. On estime à 125 le nombre d'églises qui, aux États-Unis, utilisent des serpents pendant leurs services religieux. Pour justifier la pratique, les pasteurs concernés citent l'évangile Saint-Marc qui dit, et je cite, « Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. » Voilà. Maintenant, nos invités, pasteur Daniel Capepula, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends bien, 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 Idrissa.
Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Mon père Gérald Murray, est-ce que vous êtes là avec nous?
Oui, bien sûr.
Merci.
Très heureux d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus de la vaccination?
Je trouve que c'est pas bien que les gens ont une obligation de se soigner et d'avoir recours aux médicaments qui peuvent être utiles pour ne pas tomber malade et aussi pour assurer dans la société qu'il n'y a pas des graves maladies qui peuvent poser problème pour les enfants à l'école ou dans d'autres lieux. Alors oui, je pense que Dieu veut que nous soyons reconnaissants de sauvegarder notre santé.
Pasteur Capepula?
Oui?
Oui, allez-y. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique qui consiste à refuser les vaccinations?
Bon, la pratique, parents surtout prennent la décision sur les enfants qui n'ont pas la même foi que eux, ça je ne suis pas d'accord. À moins que leur foi puisse les sauver, parce que le monsieur dont vous parlez, j'ai lu que ce n'est pas la première fois qu'il avait été mordu. Il avait été mordu beaucoup de fois, mais il n'était pas mort.
Mais là, son fils dit qu'il a manipulé ce serpent plusieurs fois, mais que, bon, le serpent ne l'a jamais mordu, mais vous savez que dans des situations pareilles, il suffit d'une seule fois et puis c'est mortel, malheureusement. Mais vous semblez dire que vous n'avez pas de problème avec ces décisions qui consistent à ne pas accepter la vaccination ni les soins médicaux?
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, bon, je vais expliquer. S'il s'agit de moi que je pense que ma foi peut me sauver, selon la Bible, d'accord. Mais si je connais les bienfaits, moi je vais conseiller que non, allez, parce que la foi dans les choses de Dieu, des fois nous prions quelqu'un est guéri, des fois quelqu'un n'est pas guéri. Donc ce n'est pas scientifiquement qu'on peut appliquer ça d'une manière à dire comme une action scientifique. Et puis surtout pas prendre une décision sur quelqu'un qui que lui n'a pas la même foi que vous comme un enfant. Ça, c'est pas bien. J'accepte pas.
Mon père, Gérald Murray, vous pensez que la foi peut guérir, la seule foi,
et que... Bon, on dit que c'est Dieu qui guérit les gens par miracle, s'il veut, et nous avons besoin de foi pour apprécier que c'est l'action de Dieu. Mais on ne peut pas dire « je crois, alors je serai guéri si j'ai une croyance forte ». Non, peut-être vous allez mourir parce que notre vie n'est pas seulement pour la terre, c'est pour l'éternité. Alors, si Dieu permet que nous soyons guéris, bien, sinon, nous acceptons la mort.
Oui, en fait, j'entendais très souvent « aide-toi et le ciel t'aidera », ce qui veut dire que bon, Dieu a mis à notre disposition tous ces médicaments, toutes ces découvertes scientifiques et autres. Alors pourquoi ne pas en profiter? Quelle est la contradiction avec la religion?
Pas du tout, en fait, l'intelligence humaine, c'est un don que Dieu nous donne, et le progrès scientifique, c'est une manifestation du fait que l'humanité étudie et fait progrès dans la connaissance des maladies et des guérisons.
Alors, nous allons céder l'antenne à un de nos auditeurs, Archiduc Théodore de N'Djamena. Allez-y, votre question ou votre commentaire.
Archiduc. Bonsoir à tout le monde. Selon la religion chrétienne, il est signifié que je pense qu'il faut frapper avant qu'on ouvre la porte.
Bon, vous dites que donc il faut frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Et c'est ça. Donc,
exactement.
Et puis, votre question, c'est quoi? Répétez, et puis peut-être que j'entendrai mieux que nos invités et je me ferai l'écho de ça. Allez-y. Alors, votre question, c'est quoi?
Est-ce que la croyance dans l'ignorance n'est pas un péché?
Est-ce que la croyance dans l'ignorance n'est pas un péché? Voilà.
Exactement.
Allez-y. Père Gérald Murray.
La croyance révélée par Dieu, par Jésus-Christ, sont pour défaire notre ignorance et pour nous donner l'intelligence qu'on doit utiliser. Alors, de rester ignorant pour volontiers, c'est vraiment péché. On doit étudier, on doit apprendre. Mais le fait que quelqu'un n'est pas instruit ne signifie pas qu'il est stupide. Parce qu'ils peuvent suivre les conseils de quelqu'un en qui ils ont confiance, comme un prêtre ou un médecin, quelqu'un comme ça. Nous avons confiance dans les connaissances d'autres.
Docteur Daniel Capepula.
Ce n'est pas un péché comme tel, mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances, comme il vient de dire. Donc, même la Bible reconnaît que nous devons avoir la connaissance en dehors de notre foi. Donc, ignorer, ce n'est pas bon. Il faudrait que les gens cherchent à connaître, comme le Père vient de le dire, à partir des médecins, à partir des instructeurs, à partir des agents sociaux, pour enfin se sauver également la vie. D'accord.
Alors, je vais lire quelques réactions. On a dit, Serge, d'où? Serge nous appelle d'où?
Du Bénin.
Du Bénin, allez-y Serge.
Ok, moi j'ai deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce que c'est leur religion à eux? Parce qu'apparemment, leur religion est quelque peu différente de celle chrétienne. Parce que celle chrétienne n'interdit pas le traitement médical. Donc, j'aimerais savoir si c'est leur religion à eux qui interdit le traitement médical. Et si c'est le cas, en quoi est-ce que ce traitement, c'est-à-dire les vaccins, constitue-t-il un péché ou en quoi va-t-il à l'encontre de la parole de Dieu?
Le père général Gérald Murray.
Bon, ce que je trouve, les gens qui font cela ici en Amérique, avec les serpents et tout ça, c'est une façon ignorante de lire la Bible et de suivre les conseils de la Bible. Nous devons savoir que l'Église catholique a jamais dans son histoire proposé aux gens de manipuler les serpents. Alors, on doit dire ce qui est raisonnable, ce qui est traditionnel dans la foi catholique nous enseigne. Quelque chose dans la Bible doit être interprété d'une manière symbolique. Et les gens, le fait qu'on croit en quelque chose ne signifie pas que c'est vrai, c'est sûr, ça. Mais je dois dire, les gens qui sincèrement font des choses stupides, on doit les aider de voir leur erreur, pas leur condamner comme ça.
Docteur Daniel Capepula.
Protestante, pentecôtiste, charismatique, on n'a jamais conseillé aux gens de manipuler le serpent. C'est vrai que la foi est là, ce qui est dit est dit. Vous saisirez les serpents et vous prendrez les brevets de votre tête, ça vous nuira point. Mais on n'a jamais, aucune église pentecôtiste, protestante, charismatique, n'a jamais conseillé les gens de manipuler les serpents. Au cas où vous êtes dans des problèmes comme ça, vous pouvez avoir la foi en votre Dieu. Mais ce n'est pas en tout cas à conseiller aux gens d'aller essayer mais de manipuler les serpents. Comme, s'ils ont pu faire ça, ça doit être une déviation, une hérésie. Ils se proclament de la religion chrétienne. Ils ont utilisé la Bible. Mais il y a beaucoup d'hérésies dans toutes les religions. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Et mais cela ne peut pas être imputé sur toute l'Église chrétienne, non.
Alors donc, je rejoins ici le père Gérald Moret quand il dit qu'en somme, souvent, on interprète littéralement la Bible parce que pour justifier cette histoire de serpent, ils disent que selon l'évangile saint Marc, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera point de mal. Et c'est ça qu'ils utilisent pour justifier ce qu'ils font avec les serpents. Alors, bon, je vais lire quelques commentaires ici. « La religion est l'opium du peuple, dit Jean-Pierre Kenom. Elle aveugle les gens et empêche plusieurs personnes à innover. » Alors, Christian Nainkalanzou abonde dans le même sens, il dit « religion aveugle ». Est-ce qu'on n'est pas en train de condamner la religion de façon générale à cause tout simplement de ces cas dont nous parlons, de ces cas assez particuliers, le père Meret?
Oui, je pense que oui, c'est... Et en vérité, cette idée de religion comme opium de peuple, ça vient de Karl Marx. Et je dirais, la grande majorité des hommes voudraient vivre dans un pays catholique que de vivre dans un pays communiste. Les communistes, ça c'est l'opium de peuple, c'est l'idée que l'argent va vous sauver. Ce qui sauve, c'est Jésus. Alors non, si on critique les erreurs des chrétiens, ça signifie pas que le christianisme est en faute.
C'est en général comme quand on critique certains musulmans à cause de certaines horreurs commises par certains musulmans, on condamne toute une religion.
C'est ça, et on doit reconnaître que on doit aimer les hommes, mais pas leurs erreurs. Et on ne doit pas dire que tout le monde fait le même erreur, parce que en ce cas-là, c'est très minoritaire les gens qui manipulent les serpents.
Docteur Daniel Capepula.
Oui, on ne peut pas condamner par minorité, comme aujourd'hui nous parlons des extrémistes, qui prennent quelques versets de Coran pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez?
Ouais,
alors, de la même manière, la religion et l'opium, quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas la lumière dedans. Parce que le christianisme, ce n'est pas tellement une religion. L'islam, c'est la vie éclairée. C'est la lumière, c'est la révélation. C'est l'amour. Donc, le christianisme, c'est un peu différent de toutes les autres qui... Mais c'est un peu différent, le christianisme. L'Église chrétienne, c'est un peu différent de simplement la religion, comme les communistes ont défini là.
Oui, j'ai parlé de l'islam parce que j'ai eu à couvrir des campagnes de vaccination contre la polio en Afrique et dans certains pays que je tairai. Il y avait des intégristes qui disaient qu'il n'était pas question du tout de vacciner leurs enfants et qui s'y opposaient très vivement. Et il a fallu l'intervention des chefs religieux traditionnels pour dire carrément, et des différentes confessions religieuses, hein, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, etc., pour dire non, la religion n'interdit pas du tout la vaccination. Au contraire, il faut profiter de ce que Dieu nous a offert pour nous protéger et protéger nos enfants.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Le père Meret.
Ah oui, c'est ça, et j'apprécie beaucoup... ce que vous dites, parce que c'est un grave erreur de dire aux gens que les médicaments qui viennent des pays développés sont en complot contre du peuple d'Afrique ou d'Asie. Et en fait, si on vit en paix, on doit partager les biens de tous les pays et les médicaments qui viennent de lointain pour créer la situation sanitaire propice pour le développement du peuple dans les pays pauvres.
Docteur Daniel Capepula, vous connaissez bien l'Afrique et votre Congo natal. Comment est-ce que on voit, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la foi pour guérir une, pour se faire guérir d'une maladie, etc. Est-ce que c'est une pratique répandue? Est-ce que les gens s'en remettent comme ça, n'est-ce pas, Inch'Allah?
Non, chez nous, bon, de partout même en Afrique, là, comme vous avez dit, c'est conflit des générations, les conservateurs et la nouvelle génération et les extrémistes. Parce que même vous venez de dire que l'exemple qu'il y a eu de vie qui sont intervenus, il faut que les gens s'adaptent, qu'ils sachent que la science travaille en leur bonheur, en leur avantage. Voilà. Nous acceptons que vous appliquez votre foi, mais que la science, les hôpitaux sont là pour vous aider.
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, une autre question d'un auditeur. Allez-y, présentez-vous d'abord.
Moi, je m'appelle Émile Lumbaya.
Ok.
Je suis à Lubumbashi, je suis médecin stagiaire à l'hôpital général de référence Saint-Louis.
Très bien.
Allô?
Oui, on vous écoute. On vous en...
ma question est celle-ci. Quel est le niveau d'instruction de ces 10 pasteurs? Et puis, la deuxième, est-ce que ces pasteurs ont d'autres travaux à faire à part celui de prêcher l'Évangile? Parce qu'un pasteur instruit, il doit connaître ce que les effets du venin du serpent dans le corps humain. Parce que ce n'est pas seulement maintenant que le serpent peut tuer quelqu'un par sa morsure, mais même dans l'ancien temps, il y avait des serpents qui étaient réputés d'être mortels, comme celui qui a mordu Pierre quand il partait, quand il était sur l'île de Grèce. C'était un serpent reconnu comme mortel. Alors, si dans la Bible il y avait aussi des serpents mortels, pourquoi aujourd'hui les pasteurs peuvent refuser qu'un croyant ou un chrétien mordu par un serpent puisse aller aux soins de santé? Et même si les miracles peuvent se produire, bien sûr, pourquoi il ne peut pas prier pour les malades et les laisser aller voir son médecin? Et puis, concernant le travail d'un pasteur, si ce pasteur avait un autre travail à faire, il pouvait avoir un peu de moyens, c'est peut-être il a vu que l'argent qu'on doit dépenser pour les soins médicaux allait peut-être l'aider et que cela pouvait partir au sol.
En fait, je vais vous arrêter tout de suite. En fait, c'était le pasteur lui-même qui a été mordu par le serpent et c'est le pasteur lui-même qui a refusé d'aller à l'hôpital et c'est sa femme qui a refusé aussi quand l'ambulance est venue pour l'amener à l'hôpital et son fils n'était pas inquiet du tout. Il a dit que c'était son heure il fallait qu'il parte et il est parti quand son heure est arrivée. Pour résumer, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, le père Gérald Meuret, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Est-ce qu'on a le droit, au nom de la religion, de refuser des soins, non seulement pour soi-même, mais pour ses enfants, et on leur refuse aussi la vaccination au nom de la religion, en disant que la religion nous l'interdit et que seule la foi peut guérir?
Les gens doivent profiter de tout ce qu'ils font. Offre à la race humaine le progrès médical. S'il y a une question, si quelque chose est sûr ou non, on doit consulter le curé, le médecin, le professeur. Mais cette idée que la religion est une substitution pour l'intelligence humaine, c'est faux. L'intelligence humaine va en pair avec la religion chrétienne et ce qu'on doit faire comme les sujets de Jésus-Christ.
Le père Gérald Meuret, nous l'avions en direct de New York. Il est docteur en droit canon et curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul à New York. Nous le remercions d'avoir participé à cette émission. Nous remercions aussi le docteur Daniel Capepula du Christian Victory Center aux États-Unis. Et nous remercions les auditeurs qui ont participé à cette émission et qui, malgré le temps, ont pu nous envoyer quelques commentaires sur Facebook. Voilà. Et je remercie aussi de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin, qui a produit cette émission. Voilà. Donc, c'était le dialogue des religions avec Idrissa Seduya. Restez à l'écoute. Washington, la voix de l'Amérique.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.